Le dispositif lycéen et apprenti à l'opéra, ça ne vous dit rien, à moi non plus, avant de faire cet enregistrement. Il s'agit de permettre aux jeunes la découverte d'un opéra dans le cadre d'un travail préparatoire mené par leurs enseignants. Avant d'aller assister à une représentation à Lyon, des élèves du lycée Marcel Gimond d'Aubenas ont donc suivi un stage avec leur professeur d'éducation musicale, Didier Lagarde, et deux chanteurs lyriques installés en Ardèche, Kate Lander et Nicolas Todorovic. Les voici sur InfoRC.
Bon, donc vous êtes là pour que je vous présente l'opéra Tosca, qu'on va voir ensemble. Après, je vous montrerai un petit peu la mise en scène de Lyon. Et puis après, vous travaillerez avec Kate et Nicolas un petit peu, qui vous parleront de leur métier de chanteur. Ils sont chanteurs d'opéra. Et puis après, ils vous feront certainement chanter un petit peu. Ouais, j'ai bien dit chanter un petit peu, ouais. C'est la surprise du jour. On ne vous l'a pas dit avant, sinon vous ne seriez pas venu.
L'histoire, il est pendant moins de 24 heures, c'est une journée, et ça donne l'excitation de l'histoire à la fin. Mais pendant l'ère très connue, Visidarte, c'est ça tout arrêté.
Alors la Tosca, c'est de Puccini. Pour la Tosca, comme dans beaucoup d'opéras, il n'y a pas beaucoup de personnages principaux. Là, il y en a trois. Il y a Floria Tosca, il y a Mario Cavaradossi, et puis il y a Scarpia. En gros, c'est les trois. Avec une soprano, c'est cantatrice, c'est Floria. Soprano, c'est la voix de femme aiguë. D'accord ? Ténor, c'est la voix d'homme aiguë, donc un peintre. Et Scarpia, le chef de la police. En gros, c'est les trois principaux. Après, il y a Angelotti qui permet d'enclencher l'histoire, on peut dire, parce qu'il n'y est pas tout le temps, Angelotti. Et puis tous les autres personnages, comme le sacristain, qui va des fois commenter un petit peu des propos de différents personnages. Donc ça a été créé en 1900, 14 janvier 1900. Et ça se passe à Rome le 17 juin 1800, pendant la bataille de Marengo. C'est tiré d'une pièce de Victorien Sardou. Voilà, ça c'est pour poser les choses. Alors, Puccini, il a pris la pièce de Sardou, mais il a enlevé le deuxième acte. Et Sardou lui a imposé de garder la fin. Ça a été un échec à la première représentation. Et après, c'est Toscanini, un grand chef d'orchestre, qui l'a repris le 17 mars, à la Scala de Milan. Donc vous voyez, Tosca, c'est une cantatrice, elle est dévote, elle va à l'église, elle est toujours en représentation, elle est passionnée par tout, mais surtout elle est dévorée de jalousie. D'accord ? C'est-à-dire qu'autant elle peut aimer énormément, mais autant elle est très 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 jalouse. Et de temps en temps, on a l'impression que c'est une midinette, elle est un peu faux-folle. Donc elle est aussi vaniteuse, capricieuse, on n'a pas envie de la connaître pour le moment, Tosca. Et cervelée, d'accord ? Donc à la fois elle peut être amoureuse, jalouse, midinette, mais à la fois elle peut tuer quelqu'un aussi. Cavaradossi. Alors lui, j'allais dire, c'est le bonhomme. Tranquille. L'art, l'amour, la liberté. Il vit pour son art. Il adore Tosca. Il ne se pose pas beaucoup de questions dans l'opéra. Et quand on dit l'amour pour Tosca, il aime vraiment Tosca. Voilà. Ce n'est pas une aventure comme ça. Après, on a le troisième personnage important, c'est Scarpia. Pour moi, personnellement, c'est le personnage central de l'opéra. Je dirais que c'est le pervers narcissique. Moi, je le verrais comme ça. C'est quelqu'un qui va chercher à avoir du pouvoir, avoir de l'emprise sur tout le monde, à ce que tout le monde soit à ses bottes, que tout le monde l'écoute, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va les tuer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il a un besoin viscéral de domination et d'emprise. Alors, les personnages secondaires, bon, c'est surtout Angelotti. C'est l'ancien consul de la République et c'est lui qui enclenche le drame de l'opéra parce qu'il s'évade du château. Voilà. Mais ça, on va le voir plus tard.
Oh,
Alors, mise en scène de Lyon, voilà, c'est Daniele Rustioni qui dirige l'orchestre et c'est Christophe Honoré. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il y a deux Tosca dans la version de Lyon. C'est une audition de jeunes chanteurs pour jouer Tosca, qui viennent voir l'ancienne cantatrice Malfitano. Et dans les jeunes chanteurs, il y a Angel Blue. Et tout ce que Christophe Honoré veut faire, c'est la passation de pouvoir entre l'ancienne chanteuse et la nouvelle chanteuse. Et la passation va se faire au moment où on tue Scarpia. Et c'est l'ancienne chanteuse qui se suicide, en fait. Ça, c'est la passation de pouvoir, c'est ça. Et à l'Opéra de Lyon, ils ont une particularité, surtout sur cette production-là, c'est qu'en permanence, il y a des caméramens sur scène qui filment ce qui se passe et qui le projettent sur grand écran. C'est-à-dire que ce que d'habitude on ne voit pas à l'opéra, parce qu'on est quand même assez loin, là on aura des gros plans, des choses comme ça. Ce qui est rare, moi je ne l'avais jamais vu, ils inversent les rôles. C'est-à-dire qu'au début vous aviez les chanteurs sur scène et l'orchestre en fosse, et le troisième acte vous avez l'orchestre sur scène et les chanteurs en avant-scène. C'est rare qu'on ait l'orchestre sur scène et les chanteurs pas sur scène. C'est quand même... je sais pas si ça s'est déjà fait d'ailleurs.
Alors, l'histoire de la Tosca, c'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Mario. Ce Mario, il est sculpteur. Et du coup, il fait des sculptures pour l'église. Un jour, Tosca, elle vient voir à l'église Mario et elle voit une statue qu'il a faite d'une femme qui ne lui ressemble pas du tout. Du coup, Tosca, elle qui est très amoureuse et très jalouse, elle fait une crise et tout ça. Mais en fait, cette femme, c'est la sœur d'Angelotti.
Angelotti s'échappe de la prison et se réfugie dans l'église.
Mario le cache. Scarpia, le chef de la police, est donc à la poursuite d'Angelotti.
La police cherche Angelotti, elle ne le trouve pas.
Et Scarpia, il est pas amoureux, mais il veut coucher avec Tosca, en gros. Après, Scarpia, il découvre que c'est Mario qui cache Angelotti. Du coup, il va l'arrêter et il va faire passer un interrogatoire à Tosca. Parce que Scarpia, il croit que Tosca sait où est caché Angelotti, alors que c'est pas vrai. Mais au final, Tosca va apprendre où est caché Angelotti. Et sous la torture des cris de Mario, Tosca, elle va dire où est caché Angelotti. Et sauf que après, vu que Tosca, elle a dit où était caché Angelotti, elle veut quelque chose en retour de la part de Scarpia, le chef de la police. Elle veut qu'il leur laisse le droit, elle et Mario, de quitter le pays. Et en gros, du coup, de ne pas exécuter Mario, vu qu'il a été emprisonné. Scarpia, il fait croire à Tosca qu'ils vont faire une fausse exécution. Comme ça, après, ils pourront s'enfuir tous les deux. Sauf que Scarpia, il dit à Tosca, oui, c'est d'accord, mais avant, je veux faire des choses avec toi et tout. Sauf que Tosca, elle n'est pas d'accord. Du coup, elle le tue. Tosca, elle va assister à la fausse exécution de Mario, mais au final, c'est une vraie exécution. Elle se rend compte que lorsqu'il est à terre, et qu'elle se rend compte qu'il est mort, y a la police qui vient arrêter Tosca parce qu'ils savent que c'est elle qui a tué Scarpia. Elle ne supporte pas l'idée de se faire emprisonner toute une vie et que l'amour de sa vie, il est mort. Du coup, elle saute et elle se suicide. Et dans la version de Lyon, en fait, on voit... Malfitano, qui a joué plusieurs fois à Tosca dans des opéras, on la voit qui reçoit des candidats pour une audition d'une représentation de Tosca. Et tout au long de la pièce de Lyon, on voit l'histoire de Tosca se repasser. Sauf que cette fois, on voit l'ancienne Tosca, Malfitano, se faire remplacer petit à petit par Angel Blue. Et du coup, l'histoire de Tosca se répète. Voilà, comme ça.
Etc. Les chanteurs ne se sentent bien pour chanter que sur un certain nombre de notes. Alors certains sont à l'aise dans les graves, d'autres dans les aigus. Mais l'écart entre la note la plus grave et la note la plus aiguë sur laquelle un chanteur se sent bien, c'est ce qu'on appelle la tessiture. Alors les hommes sont classés en trois groupes et chacun correspond à une tessiture différente. Alors du plus grave au plus aigu, il y a d'abord les basses de cette note, un mi jusqu'à celle-ci. Ensuite, les barytons de cette note, un la jusqu'à celle-ci, un sol. Puis, les ténors de cette note, un do jusqu'à un autre do, ici. Alors chez les femmes, la voix la plus grave, c'est l'alto qui s'étend de cette note, un sol bémol, jusqu'à celle-ci, un fa. Un peu plus aigu, la mezzo de cette note, un la bémol, à celle-ci, un autre la bémol. Et enfin, tout en haut, la soprane de cette note, un do jusqu'à un autre do.
Ça, c'est une soprane. Il y a les différents types de soprane. Il y a le lyrique qui chante les choses comme Tosca. Il y a coloratura comme ça, qui est dramatique aussi, qui chante les notes très haut. Après ça, nous avons le mezzo, la voix plus grave. Dans le monde d'opéra, les alti et le mezzi sont les mêmes voix. Alors. La chose spéciale avec la voix est en fait, nous sommes la voix. C'est l'instrument de nous. Chaque instrument est unique. Alors ça fait la voix extrêmement différente des autres instruments. De plus, c'est pas simplement qu'on chante une mélodie, mais on chante des paroles, des poésies. Pas seulement en un langue, mais beaucoup de langues différentes. Ça, c'est très spécial que vous apportez une voix. Pas seulement pour parler, mais pour chanter peut-être. Le même, pour tout. La chose qui est spéciale avec la voix lyrique est nous chantons dans les grands théâtres. De plus, nous chantons avec souvent les orchestres de plus d'une centaine. De plus, on doit chanter pianissimo, très très fin, petit, ou forte. Et tout le public doit écouter chaque note. Comment que ça c'est possible? Une idée, pourquoi c'est possible qu'une voix sans micro, avec un orchestre, est possible que chanter dans ces grands endroits. Souvent, dans les endroits de Orange, c'est plus de 7000. Albert Hall, Londres, plus de 7000. Arona, 17000. Comment? L'air compressé, c'est-à-dire une chose acoustique. Tu sais, si on... Ça passe. Non? Peut-être. Comment qu'on trouve cette compression? Qu'on est capable de chanter plusieurs heures sans fatiguer, sans une voix fatiguée. Alors, respiration, les basses, oui, ça c'est la fondation. Alors, aujourd'hui, nous expliquons comment que ça c'est possible. Et on commence avec la respiration. Et en fait, la respiration, c'est une respiration qui est un peu pareille de la respiration qu'on utilise avec yoga, le basse. Alors, c'est-à-dire que on veut le sens qu'on respire là, oui. Nous avons le grand muscle de respiration qui est le diaphragme. Le diaphragme, alors, comme on inspire, le diaphragme descend et il y a plus d'espace là dans les poumons pour l'air. Le diaphragme descend et le diaphragme monte comme on expire l'air. Pour nous, nous devons maîtriser le montée du diaphragme. Ça, c'est la chose qui est très importante pour nous. De plus, nous devons prendre des inspirations un peu plus larges, plus grandes d'habitude. Mais c'est des moments dans la vie pareils où on prend des grandes inspirations. Peut-être on est dehors, il fait beau, on est sur une montagne et on fait... Ah, voilà. So, alors, les inspirations pour le chant sont un peu comme ça. Pas, c'est pas nécessaire quand on pense « Je veux chanter !» Ça, c'est trop. Mais juste une inspiration de... Et voilà. Un peu plus grande. Now, à cause de ça, le diaphragme descend encore plus d'habitude. Pendant une journée typique, quand nous respirons, les inspirations ne sont pas très profondes. Mais si on prend une bonne inspiration, le diaphragme descend et il y a ici un déplacement des viscères. So, ça bouge. So, l'air entre. Et on veut chanter comme ça. So, ça, c'est la chose que nous voulons. Now, pour maîtriser l'expiration d'air, nous devons avoir le mouvement là plus un mouvement des basses côtes. So, aux raisons que le diaphragme est attaché autour, si on garde les côtes ouvertes, etc. Longtemps, parce que je garde ça. Si je ne garde mes côtes, c'est comme... non. So, ça, c'est mieux. So, ça, c'est le moteur. L'air, le moteur. So, on fait, comme on respire pour le chant, c'est pas nécessaire qu'on fait... Ah, ah... En fait, on laisse l'air rentrer naturellement. Oui, c'est naturel, ok? Ça va? Ok. Now, alors, comme j'ai dit, le voix, c'est l'air compressé. So, le voix, c'est un peu comme un compresseur. Et vous savez qu'avec un compresseur, il y a une petite valve. So avec une valve, on ouvre la valve un petit peu et il y a un filet d'air qui fait psss. Si on ouvre la valve trop, psss, encore plus trop, psss, comme... Ça, c'est ça. Les cordes vocales, le larynx, si je garde une petite endroit, pathetic. More. Yeah, trop. So on peut garder ça. D'accord? Now.
Nel pozzo del giardino va, Spoletta!
So, les cordes vocales, c'est la fermeture des cordes et une chose musculaire. Et comme on chante, on veut garder la proximité des cordes. Now, la chose avec les cordes, naturellement, comme on veut parler, comme on veut chanter, le cerveau envoie un message là et le cerveau change la taille des cordes. Plus long et fin pour les notes en haut, plus épais et court pour les notes en basse.
Et ça donne un petit message, ah oui, nous avons besoin d'une chose plus tendre. Et oui, ça change la justesse.
So, look, sans penser, comme vous voulez parler ou chanter, ah, mon cerveau a fait les cordes dans la bonne taille nécessaire pour chanter cette note. D'accord? « So les cours de film en préparation pour le chant, mais pas collés. So alors, imagine que les deux papiers sont les deux cordes. Les passe entre les papiers. So ça, c'est les cordes qui vibrent comme on chante.
So si je commence avec les cordes serrées, j'ai or a cough. Ça bat le corde. On a besoin un peu, petit peu d'espace avant on parle. On ne réfléchit pas, c'est naturel pour nous pour parler. Mais quand on chante, on réfléchit plus pour le chanteur. Et après, nous avons s'il y a trop de l'air, et ça, c'est pas bon parce que j'ai pas la longueur pour continuation. C'est un balance délicat.
Trop collé. Les cordes trop proches. Mais bien. D'accord? Tout ça, c'est clair? Alors, c'est vous qui chantez maintenant. Alors, debout. Nous avons parlé de le moteur. Nous avons parlé de l'activateur. Le larynx et les cordes. Après ça, comme tous les instruments, on a besoin de boîte de résonance. Des tailles différentes qui donnent un son plus chaleureux, peut-être. Le piano, tous les instruments ont besoin d'une boîte de résonance. Alors pour nous, heureusement, nous avons une boîte de résonance, alors l'espace dans la bouche et le pharynx qui est capable de changement. Donc avec ça, on reste avec une palette de couleurs possibles. Si on fait la boîte de résonance un peu grande, moins grande, ou ça. Solo. Nous avons parlé de le moteur. OK. Comme les partitions là, comme on regarde les notes montent et descendent. Pour le chant, on veut penser que les notes restent dans le même plateau. Il y a une grande soprane qui dans son livre. Elle écrit que comme elle chante 2 octaves et demie, qui est une grande tessiture, c'est la tessiture grande, elle a l'impression que les notes sont très très proches. So, alors, écoute la différence entre... So pour nous les chanteurs, nous voulons ça tout le temps. So imagine ça comme vous faites. Ensemble. Encore. Magnifique. Encore. Encore. Ça, c'est bon.
Et par la base de la technique, c'est le même pour les chanteurs de jazz, pop, chanteurs lyriques. Tous sont le même base. Et après, il y a autre chose. Il y a une petite différence, mais la base, la technique, c'est nous donnerons le cours avec tous les genres différents pour les chanteurs.
Et la chose importante est qu'on garde tout le temps le mécanisme, la coordination de ça. La coordination de fermeture des cordes et la continuation de la résonance. Comme on chante bien, il y a une sensation de résonance ici. C'est-à-dire qu'il y a une résonance sympathétique. Des os résonnent à cause de l'air qui est compressé, qui passe dans la boîte de résonance. So, l'air fait ça partout. Et à cause de ça, il y a un sens de résonance. So, le son n'est pas... tout le temps, on veut un peu de ça. Et ça, c'est si on chante piano, très fin ou forte.
Très bien.
Merci beaucoup pour la patience pour nous. Et j'espère que tu fais plaisir à Lyon.
construit entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Opéra de Lyon, le dispositif lycéen et apprenti à l'opéra existe depuis 1998 et permet chaque année un accès accompagné de 2400 lycéens à l'opéra. Cette année, les élèves du lycée Marcel Gimond ont donc découvert l'Opéra Tosca de Puccini.